bonjour à tous. Et merci Patrick, merci aux organisateurs de votre intérêt pour mon travail. Je ne suis parmi vous que depuis quelques minutes, mais déjà ce que j'ai entendu est très intéressant pour moi sur l'état d'esprit de cette formation et vos attentes. Cela m'a confirmé aussi dans le fait que même si nous avons des métiers différents, il y a des chercheurs dans cette salle, des formateurs, des statisticiens, moi. Même si nous avons des métiers différents, finalement, nous sommes réunis par un objectif qui est de nous approprier les résultats de la recherche pour faire évoluer notre pratique et notre culture professionnelle. Et sur ce sujet-là, sur lequel vos formateurs ont souhaité consacrer un temps, qui est la réduction de la taille des classes, j'espère vous apporter des éléments et je ne doute pas aussi que je tirerai moi-même beaucoup d'éléments de nos échanges. J'ai parlé de ce qui nous réunissait. Il y a une autre chose, je pense, qui nous réunit et je commencerai par là. C'est ce qu'il y a derrière moi, un constat que vous connaissez aussi bien que moi, qui est l'ampleur des inégalités sociales de réussite scolaire qui se constate dès la fin de l'école primaire. Donc, il y a plusieurs façons de l'illustrer. J'ai pris l'exemple des évaluations du socle, ancienne version, hein, avant 2016, donc à partir d'évaluations que l'ADEP a produites, et où dans chacune des deux compétences, maîtrise du français et mathématiques et sciences, elle a confronté les résultats, le pourcentage d'élèves qui maîtrisent cette compétence, et puis l'origine sociale de leurs parents, en classant les élèves en fonction des professions de leurs parents et en partant des origines sociales les plus défavorisées du point de vue du contexte familial vers les plus favorisées. Et dans le groupe 1, des 20% des élèves des milieux les plus défavorisés, 69% en 2015 maîtrisés avaient acquis la compétence maîtrise du français en début de 6e, contre 94% dans le groupe des plus favorisés. Et j'ai mis à droite du graphique les mathématiques pour vous rappeler que, bien sûr, ce n'est pas un problème qui est spécifique à la maîtrise du français. Ces inégalités sociales se constatent de multiples façons et dans plusieurs disciplines. Et quand je vous parlais de la deuxième chose qui nous réunit, c'est celle-là, c'est trouver ensemble, réfléchir ensemble à la façon d'améliorer les résultats des élèves et aussi de corriger autant que possible ces inégalités. Et c'est là qu'intervient la taille des classes, c'est que dans le débat, comme vous avez dû l'entendre, elle est souvent évoquée comme un facteur qui peut être un facteur correctif, un levier qui permettrait d'améliorer les résultats des élèves et tout particulièrement les résultats des élèves les plus défavorisés et donc de lutter contre les inégalités. Alors, en même temps que cette idée est diffusée, elle est aussi débattue, un débat qui dure depuis des décennies, notamment aux États-Unis. Attention à ne pas caricaturer les positions dans ce débat. À mon avis, je pense que dans le débat scientifique aujourd'hui, il n'y a plus personne, à ma connaissance, hein, je dis bien, qui avance que la taille des classes n'a aucun impact sur la réussite des élèves. Je ne vois personne. Même les chercheurs qui sont les plus critiques sur ce sujet. Et je pense notamment à Eric Anouchek, un chercheur américain qui est souvent évoqué sur cette question-là. Même Eric Anouchek ne nie pas que la taille des classes a un effet. Simplement, la critique qu'il émet, c'est que face à des difficultés, face au constat d'inégalité sociale, eh bien, on a peut-être trop tendance au niveau politique à basculer vers une politique de moyens, parce que c'est peut-être ce qui vient le plus naturellement, mais on pourrait passer à côté de politiques peut-être plus innovantes, moins évidentes à mettre en place, parce que justement plus innovantes, mais qui pourraient être aussi au moins autant efficaces, sinon plus efficaces. Voilà le sens de sa critique. Et face à lui, il y a des chercheurs qui ont une vision plus positive, plus affirmative sur l'intérêt de la réduction de la taille des classes en tant que levier majeur, je l'ai dit, pour réduire les inégalités. Donc, dans le débat actuel, et vous avez dû l'entendre, les chercheurs se sont exprimés. Il y a eu une tribune, par exemple, dans le Café pédagogique, une note de l'Institut des politiques publiques. Et dans ce débat-là, également, nous avons considéré au service statistique du ministère de l'Éducation, donc à l'ADEP, nous avons considéré qu'il était important que l'ADEP travaille sur le sujet et porte une analyse, émette un avis, contribue à ce débat. Et c'est cette contribution que je vais vous présenter, puisqu'elle a fait l'objet d'un article que j'ai publié en 2014 dans la revue L'ADEP, Éducation et Formation. Je me suis concentré sur les travaux français, mais je n'hésiterai pas à citer quelques travaux internationaux qui ont pu inspirer et prolonger les travaux français. Commençons par la mesure. Je vous ai dit que la taille des classes, c'était un objet qui était moins évident qu'il n'y paraissait au premier abord. Dans la plupart des travaux dont je vais vous parler, la taille des classes est définie au sens administratif de la taille d'une unité, qu'on appelle aussi division dans le vocabulaire de la DEP. Donc, la division, quand j'étais élève, j'étais en 6e A, en seconde 12, c'est exactement de ça dont on parle. Donc, une facilité à la mesurer, parce qu'elle renvoie à une unité administrative, bien définie, mais en même temps une certaine ambiguïté, pas la même dans le premier degré et le second degré. Dans le premier degré, l'ambiguïté naît du fait que la moitié des élèves sont en classe multiniveau, et encore 40% dans l'enseignement élémentaire, et jusqu'à 72% dans les écoles qui sont situées en commune rurale. Et donc ça pose la question de finalement quel est le nombre d'élèves qui est pertinent pour caractériser l'environnement de l'élève et les conditions de travail de l'enseignant. Est-ce que c'est vraiment le nombre d'élèves qui sont présents physiquement dans la classe, ou est-ce que ce sont les élèves du même niveau que l'élève auquel on s'intéresse? Il y a cette ambiguïté-là. Et dans le second degré, l'ambiguïté naît d'une autre raison, qui est que plus on avance dans la scolarité, plus fréquents sont les travaux faits en petits groupes, jusqu'au lycée général et technologique, où la moitié des heures d'enseignement sont assurées. Un tiers des enseignements se fait en groupe dans le second degré et la moitié au lycée général et technologique. Et donc ça pose évidemment la question de l'objet taille de classe, taille de division, qui, je l'ai dit, devient de moins en moins pertinent au fil de la scolarité, parce que le nombre d'élèves qui sont physiquement présents dans la classe reflète de moins en moins le nombre d'élèves qui sont inscrits dans la classe, dans la division. Et donc ça, c'est un point extrêmement important à garder à l'esprit pour aborder ces travaux de recherche, qui s'appuie, dans ce que je vais vous présenter en tout cas, sur la taille de la classe. Mais du coup, il faut garder à l'esprit qu'en s'appuyant, en faisant ce choix de la taille de classe, eh bien, une partie des résultats qu'ils obtiennent peuvent s'interpréter par ce choix-là. Je prends le cas d'un résultat qui a été obtenu par Piketty et Waldener, et qui va être un résultat central dans ce que je vais vous présenter, qui est le fait que l'effet d'une réduction de la taille des classes sur la réussite des élèves est maximal dans le premier degré, et qu'après, il est plus faible au collège, et puis, il est très faible ou inexistant en lycée général. Piketty et Waldener n'ont pas proposé de résultats sur lycée professionnel. Mais cette décroissance de l'effet de la taille des classes au fil de la scolarité pourrait très bien s'expliquer par le fait que la taille de classe, je l'ai dit, est un objet de moins en moins pertinent au fil de la scolarité, parce que de plus en plus d'enseignements se font en groupe. Voilà. Donc c'est important de garder cette question de la mesure en tête. L'autre côté de la relation doit être aussi questionné, c'est-à-dire le côté réussite scolaire. L'idéal, enfin ce que nous préconisons, point de vue DEP pour ce type de travaux, c'est l'utilisation d'évaluations standardisées, parce qu'elles permettent de comparer les résultats des élèves de différents établissements et dans différents territoires. Donc exemple, les évaluations de maîtrise de compétences du socle que je vous ai présentées au début. Mais elles ne sont pas toujours disponibles dans les travaux de recherche que je vais vous présenter, et pas toujours disponibles à tous les niveaux. Donc certains travaux utilisent des résultats aux examens, au diplôme national du brevet, au baccalauréat, mais avec du coup une comparabilité déjà entre établissements et entre territoires qui est un petit peu atténuée, même si on prend les notes à l'examen terminal, parce qu'il y a des jurys académiques, départementaux, donc une harmonisation des notes qui peut être différente d'un territoire à un autre, parce qu'il y a des séries du baccalauréat, etc. Donc déjà, un indicateur moins pur, en quelque sorte, des acquis scolaires d'un élève. Et puis, certains travaux aussi qui n'ont ni compétences standardisées, ni examen s'appuient sur le redoublement, mais vous savez que le redoublement a un lien complexe avec le niveau scolaire de l'élève. Il dépend en bonne partie du niveau relatif de l'élève dans sa classe. Pour le même niveau donné, eh bien, l'élève ne sera pas traité en quelque sorte de la même façon en termes de redoublement selon le niveau moyen de sa classe. Il dépend aussi des politiques de redoublement qui, vous le savez mieux que moi, changent au cours du temps et ne sont pas forcément les mêmes d'un territoire à un autre. Donc, un indicateur qui est utilisé, mais un indicateur qui peut être discuté, critiqué. Se poser cette question-là de l'impact de la taille des classes, c'est aussi se demander mais sur quelle période on travaille. Impact de court terme, impact sur un an, une année passée en classe réduite, deux ans. Est-ce qu'on mesure les effets à la sortie du dispositif ou bien plusieurs années après, selon le choix méthodologique, on va le voir, qui est fait, eh bien, les résultats peuvent être sensiblement différents. Donc, vous voyez, avant même, et puis, bien sûr, je vais rester sur les compétences cognitives, mais il y a tout le champ du non-cognitif qui devrait être abordé. La question aussi tout ce qui est développement personnel, la question du décrochage scolaire, sur lesquels les effets de la taille des classes peuvent être un petit peu différents. Donc, vous voyez, avant même d'aborder le problème fondamental qui est celui de la causalité, on a déjà ces questions à se poser sur qu'est-ce qu'on mesure et sur quelle échéance. Et donc les travaux de recherche qui nous arrivent, eh bien, on doit les considérer un petit peu avec cette grille de lecture pour voir ce qu'ils nous disent dans quel contexte. Et c'est déjà, ça nous aide pas mal, je pense, à comprendre les différences qu'il peut y avoir entre eux. Et là, j'aborde maintenant le fond du problème, qui est la question de la causalité, et qui est donc la difficulté à interpréter le lien entre la taille de la classe et puis les résultats de l'élève pour deux raisons fondamentales. D'abord parce que les élèves qui sont dans des classes de taille réduite, en général, n'y sont pas au hasard. Ils sont plutôt, je dis bien plutôt, issus d'un environnement social défavorisé, ce qui est la conséquence des politiques d'allocation des moyens entre établissements et au sein des établissements. Alors, des allocations des moyens entre établissements, je pense bien sûr à l'éducation prioritaire, mais pas seulement. Il y a une politique d'allocation des moyens aux écoles qui encourage la prise en compte quand même assez progressive de la difficulté sociale. Donc, on va trouver des classes réduites plutôt dans des établissements défavorisés. Et au sein des établissements défavorisés, il est possible également que l'affectation des élèves entre les classes ne soit pas aléatoire, c'est-à-dire que eh bien, les élèves plus en difficulté soient plutôt mis dans des classes de taille réduite. Je pense à une recherche sur le collège qui l'illustrait. Donc vous voyez, ces difficultés-là font que si vous comparez de façon brute les résultats des élèves dans des classes de grande taille et de petite taille, vous avez toutes les chances de trouver qu'en fait, leurs résultats sont les mêmes, voire même, ce que constatent certaines études, que les élèves qui sont dans des classes de grande taille réussissent mieux. Vous pouvez tout à fait trouver ça, mais à cause de ce que je vous présente là, ce qui est le problème de la sélection des élèves qui sont dans des classes de petite taille. Donc, si vous voulez arriver à un impact causal de la taille des classes sur la réussite scolaire, il faut bien trouver des méthodes statistiques qui permettent de corriger ce biais. Et si encore il n'y avait qu'un biais sur les élèves, mais il y a aussi un biais probablement sur les enseignants. Dans le sens où l'affectation des enseignants, et là je pense aussi, vous le savez mieux que moi, n'est pas aléatoire aux classes, et certes, notamment certains travaux, notamment le travail de Pascal Bressou, Laurent Lima, que j'ai cité ici, suggèrent que, par exemple, des enseignants débutants, ou en tout cas peu expérimentés, sont plutôt mis devant des classes à taille réduite. En tout cas, quel que soit le mécanisme qui est à l'œuvre, à l'arrivée, ce qu'on constate, c'est que les enseignants, ce qui est constaté dans ce travail, c'est que des enseignants plutôt peu expérimentés se retrouvent souvent devant des classes à taille réduite. Or, si vous considérez que l'expérience des enseignants a un impact sur les résultats des élèves, et certains travaux de recherche tendent à le montrer, en tout cas que les premières années d'expérience sont importantes, et alors c'est un point qui peut être plutôt défavorable, hein, je mets des guillemets, aux classes de taille réduite. Donc c'est encore une autre raison pour laquelle vous risquez de sous-estimer l'impact favorable associé aux classes de taille réduite. Donc vous voyez, c'est extrêmement compliqué de dégager un impact causal. Et les études, car il y en a eu un certain nombre sur la question, hein, avant, dès les années 90, les études françaises, le problème c'est qu'elles étaient probablement biaisées. Alors je ne les ai pas toutes lues, mais Denis Meuret avait sorti un rapport en 2001 qui illustrait ce point. Elles étaient probablement en partie biaisées par cette difficulté à prendre en compte correctement cette sélection des élèves et cette affectation non aléatoire des enseignants. Alors, quels sont les grands types de méthodes qui permettent de dépasser ces difficultés ? D'une part, il y a le cas qui peut sembler un petit peu idéal pour le chercheur, pas si idéal que ça, j'y reviendrai, mais qui peut sembler idéal, qui est celui d'une expérimentation aléatoire, c'est-à-dire où élèves et enseignants sont affectés de façon aléatoire à des classes de taille réduite ou à des classes de plus grande taille. Donc vous voyez bien que si on fait ça, on casse ce problème de sélection des élèves et des enseignants dont je parlais au début. Donc c'est l'exemple du projet STAR aux États-Unis sur lequel je vais revenir. Autre cas, si on n'a pas d'expérimentation, c'est essayer d'isoler des situations spécifiques où on pense que la comparaison entre des classes de différentes tailles pourrait être pertinente. Alors, que sont ces situations spécifiques ? Comment les définir ? Eh bien, je vais revenir là-dessus plus loin. Le cas le plus fréquent, nous le verrons, c'est l'utilisation des seuils d'ouverture de classe. Je commence par le cas que j'ai dit quasi idéal, ou presque, qui est le cas de l'expérimentation. Donc, dans les débats sur la taille des classes, revient souvent un projet qui fait référence, qui est le projet Student-Teacher Achievement Ratio, qui a été mené au Tennessee, au milieu des années 80. Donc, ce projet a consisté, je l'ai dit, à affecter de façon aléatoire des élèves et des enseignants, très important, entre des classes de différents types d'effectifs. En fait, il y avait trois grands types de classes. Une classe à effectifs réduits, de l'ordre de 13-17 enfants, à effectifs normaux, autour de 22-25 enfants, et puis normaux avec un assistant qui aidait l'enseignant à temps plein, alors que dans les classes à effectifs normaux, il était là, mais à temps partiel seulement. Et ce projet a été conduit très tôt, dans la scolarité, puisque les premiers élèves sont rentrés dans le dispositif au moment du kindergarten, donc pour aller vite au moment de la grande section de maternelle. Et puis, entre le CP et le CE2, version américaine, eh bien, d'autres élèves ont rejoint les écoles concernées. Et ça fait qu'au final, il y a environ 12 000 élèves qui ont été suivis. Alors évidemment, pas tous, hein, parce que comme dans ce type d'expérimentation, il faut prendre des pertes d'élèves au fil du temps, je vais y revenir. Mais ils ont été suivis. Certains ont été suivis jusqu'à l'entrée dans la vie active, puisqu'il y a encore des études qui sont sorties au cours des années récentes sur l'impact qu'avait eu le fait d'être dans une classe réduite sur les salaires en début de vie active. Ça va jusque-là. Et quelle est la durée du traitement ? Quelle est la durée à laquelle ils ont été exposés à la classe réduite ? Eh bien, vous voyez que ça varie entre 1 et 4 ans, selon le moment auquel ils sont rentrés, sachant que à partir du moment où ils étaient rentrés dans un type de classe, ils étaient censés rester jusqu'au CE2 dans une classe de ce type-là. Donc 4 années au maximum. Mais je vous ai dit, ce cas n'est pas si idéal que ça. Pourquoi ? Parce que c'est une expérimentation en sciences humaines, donc qui est confrontée aux limites des expérimentations en sciences humaines. On a affaire à des personnes, à des parents, avec leurs aspirations, avec leur liberté aussi. Et donc, vous imaginez des parents confrontés au fait qu'il y a une expérimentation avec des classes réduites, mais que leur enfant n'en bénéficie pas. S'ils croient un tant soit peu qu'une classe réduite est effectivement bénéfique pour leur enfant, eh bien, ils vont essayer de faire en sorte que leur enfant soit affecté en classe réduite. Donc certains ont fait pression dans ce sens, et certains y sont arrivés. D'autres vont montrer leur insatisfaction, quitter l'école en question, mais quitter aussi le champ de l'expérimentation. Et puis, de toute façon, il y a, je l'ai dit, une certaine attrition, ce que j'ai appelé perte d'élèves au fil du temps, qui est là, pour le coup, spécifique, qui se rencontre dans tout suivi de longitudinal. Donc, Le problème, c'est que ces parents, je vous ai parlé par exemple des parents qui protestent pour que leur enfant soit en classe réduite, ce ne sont peut-être pas tous les parents qui font ça. Mais le fait que ce ne soit pas tous les parents qui fassent ça, vous voyez bien que s'ils arrivent à ce que leur enfant soit finalement scolarisé en classe réduite, ça rompt le caractère aléatoire de l'affectation des enfants. Donc, un problème potentiel. Donc, ce type d'expérience est forcément confronté à ce genre de difficultés. Dans le cas de Star, nos collègues américains sont arrivés à faire en sorte que ce ne soit pas rédhibitoire. Hein. Je vous dis que, parce que c'est un projet, des données qui ont été d'ailleurs largement exploitées avec des résultats tout à fait crédibles. Qu'est-ce qu'elles ont donné ces recherches ? Eh bien, des résultats dans l'ensemble, hein. Parce qu'il y a eu tellement de travaux, il y a forcément des cas qui se contredisent ou qui ne vont pas dans le même sens. Mais dans l'ensemble, des résultats concluants quant à l'intérêt de réduire la taille des classes, avec un effet positif, surtout la première année, et surtout, ce qui nous intéresse particulièrement par rapport à ma problématique de départ, un effet plus élevé pour des enfants dont les familles, pour les élèves noirs et des élèves dont les familles ont des revenus modestes. Voilà, les premiers travaux sur Star l'ont mis en évidence. Et les travaux, je vous en ai parlé, qui ont suivi les élèves assez loin, je pense à un travail américain de Dinarski et co-auteur qui a montré que même sur l'obtention d'un diplôme universitaire, vous vous rendez compte, donc bien après hein, le début de l'enseignement élémentaire, eh bien, il y avait encore des effets positifs, il y avait encore des effets correcteurs des inégalités, parce qu'on voyait à nouveau que c'était des élèves issus de milieux plus défavorisés qui en bénéficiaient. Il y a eu quelques travaux aussi sur les salaires en début de carrière qui ont été moins concluants, mais peut-être parce que justement, on était en début de carrière, il était encore un petit peu tôt, il y avait des jeunes qui étaient encore en études, donc c'est un petit peu compliqué, mais globalement, il semblerait qu'il y ait aussi des effets de long terme. Donc des résultats de l'ensemble concluants. Suite à la mise en place de STAR, je vous ai parlé du rapport Murray, où Denis Murray recommandait évidemment chaudement la mise en place d'expérimentation aussi en France. Et donc ça a donné lieu à une expérimentation menée entre 2002 et 2004 par l'ADEP. Je n'ai pas oublié de P. C'est qu'à l'époque, l'ADEP s'écrivait avec un seul P, puisqu'il n'avait pas encore le performance à la fin. Voilà. Je ferme la parenthèse. Et l'ADEP a mis en œuvre un dispositif expérimental, mais vous allez vite voir que la comparaison avec STAR s'arrête assez tôt, puisque bon, déjà un projet plus modeste en termes de taille, hein, puisque 200 classes de CP ont été sélectionnées dans 10 académies, et surtout un projet dès le départ centré sur des enfants de milieux défavorisés ou en difficulté scolaire, sur des écoles hein, plus précisément, qui accueillaient surtout des enfants en difficulté scolaire. Parce qu'on voulait dès le départ voir quels étaient les effets sur ces élèves-là, qui étaient ceux sur lesquels la politique était censée avoir le plus d'effets. Donc dans une moitié de ces classes, une réduction d'effectifs a été mise en place, une réduction très forte, vous voyez, puisque conduisant des classes de l'ordre de 8-12 élèves, donc environ 10 élèves de moins que dans l'autre moitié. Et puis l'année suivante, les élèves de ces classes à effectifs réduits ont été basculés en CE1 dans des classes à effectifs habituels. Avec deux principales limites de ce dispositif. D'une part, contrairement à l'expérimentation STAR, les classes n'ont pas été sélectionnées de façon aléatoire. Elles ont été proposées par les recteurs en tenant compte notamment des possibilités qu'il y avait, mais matérielles, de dédoubler les CP. Donc si les possibilités matérielles de dédoubler les CP ne sont pas indépendantes de l'endroit où on se trouve et des caractéristiques des élèves, vous voyez qu'il peut y avoir un biais. Et puis, autre point, c'est que, comme dans toute expérimentation, il y a eu des pertes, mais il y a eu des pertes assez vite, là. C'est-à-dire qu'en suivant les élèves pendant 2 ans, vous voyez qu'en fin de CE1, déjà, on n'avait plus que 113 classes sur les 200 de départ. On n'est pas très loin de la moitié des classes perdues. Donc, on est un petit peu limité dans ce qu'on peut tirer de ce type d'expérimentation. Mais quand même, il y a des travaux qui ont été faits, qui ont tâché autant que possible, hein, sans pouvoir le faire complètement, mais autant que possible, de corriger les différents biais. Et à quoi ils sont arrivés ? Eh bien, à des résultats nuancés, on va dire, sur l'intérêt de réduire la taille des classes. Certes, en fin de CP, il y avait bien de meilleurs résultats en mathématiques et en français pour les élèves des CP effectifs réduits. Un avantage qui était toutefois de faible ampleur. Alors, ce faible ampleur, ça a été pas mal discuté avec notamment Bressou et Lima qui ont insisté sur le fait qu'il avait été sous-estimé parce qu'on n'avait pas tenu compte du fait que des enseignants peu expérimentés étaient plutôt devant des classes de CP à effectifs réduits. Mais quoi qu'il en soit, au bout du compte, l'effet restait faible. Alors, vous allez me dire, faible, fort, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, quand je dis que l'effet est faible, ça fait référence au fait que l'effet qu'on trouvait favorable à la réduction de la taille des classes pour ces élèves, donc plutôt défavorisés, il est à peu près du même ordre que celui qu'on trouve dans l'expérimentation américaine dont je vous ai parlé. Oui, sauf que dans l'expérimentation américaine, on est sur l'ensemble des élèves. On n'est pas sur des établissements défavorisés. Alors qu'on s'attendait à un effet plus fort, voire beaucoup plus fort, sur cet établissement-là. Donc un effet limité. Et puis, autre point d'interrogation, en fin de CE1, l'effet avait disparu. Les élèves qui étaient passés dans un CP à classe réduite, à effectif réduit, n'avaient plus d'avantage sur ceux qui n'y étaient pas passés. Ce qui pose question. Et puis, troisième point qui interpellait, c'est qu'il y a eu aussi un réexamen des données par Jean Ecal, donc c'est co-auteur, d'ailleurs c'est une collaboration Université de Lyon 2 et DEP hein, sur cette étude-là. Un réexamen centré sur les progrès en lecture et centré aussi qui donnait une part importante à la question de l'inégalité sociale. Et cette étude mettait en évidence des effets positifs sur les apprentissages en lecture, mais des effets limités. Et puis quand ces chercheurs essayaient de distinguer l'effet par origine sociale de l'élève, eh bien, vous voyez que dans ces classes-là, ce n'étaient pas forcément les élèves les plus défavorisés qui avaient bénéficié de la mesure. Ce n'étaient pas non plus les élèves les plus favorisés. C'était des élèves qui étaient un petit peu en position intermédiaire, on va dire. Et puis, lorsqu'ils regardaient les élèves qui ne parlaient pas français à la maison, eh bien, on ne voyait pas d'impact sur leurs apprentissages en français du fait d'être passés en classe à effectif réduit. Ce qui est aussi embêtant, parce qu'on pourrait s'attendre à ce que ce type de réforme permette à ces élèves d'assimiler plus, enfin de s'acculturer plus facilement avec le français. Donc, vous voyez, trois types de résultats qui posaient question. Alors, ce qui faisait aussi qui posait question, et ce qui a bien été relevé par Bressou et Lima, c'est que, face à eux, il y avait d'autres études qui mettaient en avant un effet beaucoup plus favorable à la réduction de la taille des classes. Donc, ce sont ces études-là dont je vais parler maintenant, mais donc je vais aborder le second volet, hein, des méthodologies permettant de corriger ce problème de sélection dont je parlais, qui est le cas des quasi-expériences. Donc je l'ai dit, on essaye dans les données de trouver des situations où la comparaison entre élèves de grande classe et de petite classe a un sens, est faisable. Et le cas le plus fréquent, c'est l'utilisation des règles de taille de classe maximale. Alors les économistes parlent souvent de règles de Maïmonide en référence à un rabbin du XIIe siècle, qui déjà précurseur, puisqu'il avait finalement perçu ce lien probable qu'il y avait entre le nombre d'élèves qui assistaient à un cours et puis l'efficacité de l'enseignement, et qui préconisait que la taille des classes ne dépasse pas 40 élèves. Et cette règle, en tout cas dans la deuxième moitié du XXe siècle, a été en vigueur en Israël, et a donné lieu à une recherche de Angrist et Lévy qui en a amené beaucoup d'autres qui ont pris le parti de cette méthodologie. Donc l'idée, c'est de se dire que avec une application stricte de cette règle, si vous regardez le nombre d'élèves qu'il y a dans un niveau, par exemple au CP, eh bien ce nombre d'élèves est un prédicteur, vous permet de prédire le nombre de classes que vous allez avoir et le nombre d'élèves par classe que vous allez avoir. Si vous avez une école avec 80 élèves dans un niveau, et que vous avez une règle de seuil à 40 élèves, ça veut dire qu'elle peut théoriquement avoir deux classes de 40. Mais si elle passe à 80, ce n'est plus possible. Elle doit avoir trois classes de 27. Et donc, la méthodologie que je vous présente s'appuie sur cette règle-là, en se disant, au lieu de comparer directement des classes de grande taille et de petite taille, on va faire une comparaison indirecte. On va comparer des écoles qui sont d'un côté et de l'autre des seuils dont je vous ai parlé. On a donc deux types de travaux menés dans le cas français dont il faut essayer de voir les convergences et les divergences. Déjà, il me semble qu'elles s'accordent quand même sur l'essentiel dans le sens où on voit un effet positif et significatif d'une réduction de la taille des classes pour la réussite des élèves. Et ce constat, je vous l'ai dit, rejoint celui fait largement dans la littérature internationale, par exemple dans la note de l'Institut des politiques publiques dont je vous parlais au début de mon intervention. Sur quoi ils divergent ces travaux ? Eh bien, ils divergent, je vous l'ai dit, sur le fait que l'effet est plus faible dans l'expérimentation de l'ADEP, et pas forcément en faveur des élèves les plus défavorisés, et enfin un effet qui présente l'inconvénient de ne pas être durable, puisque, je vous rappelle, il disparaît, on ne constate plus d'écart une fois que les élèves sont revenus en CE1 dans des classes à effectifs normaux. Alors, on a deux méthodologies qui ont, je l'ai dit, chacune leurs limites. Est-ce qu'on peut essayer de dépasser, parce que à la fin, il faut quand même transmettre un message clair, le plus clair possible. Donc soit il y a une méthode un petit peu brutale qui serait d'éliminer l'une des méthodologies en considérant que l'autre lui est supérieur en termes de crédibilité. Ce n'est pas la voie que j'ai prise, j'ai essayé de prendre une voie plus constructive en essayant de voir comment elles pouvaient être complémentaires. Comment elles peuvent l'être ? Bien, peut-être que les résultats, ces résultats plutôt favorables à la réduction de la taille des classes, nous invitent à revisiter ce qui a été fait dans l'expérimentation de l'ADEP, par le fait que finalement elle s'était conduite dans des conditions très particulières. Elle s'était conduite sur un an. La réduction de la taille des classes en CP a duré un an. Et les élèves étaient rebasculés dès l'année suivante dans des classes à effectifs normaux. Est-ce que finalement cette durée n'était pas trop courte pour permettre aux élèves et à leurs enseignants de s'approprier finalement les possibilités offertes par cette politique ? Est-ce que ce que dit l'expérimentation de l'ADEP de l'époque, ce n'est pas que cette politique gagne à être inscrite dans la durée, à la fois durée dans le cas d'une politique qui subsiste, et aussi d'élèves qui, peut-être, sont de façon durable inscrits, pour ceux qui en ont plus la nécessité, dans ce dispositif de réduction de la taille des classes. Premier point, donc, sur le caractère durable du dispositif. Deuxième point, sur la réduction des inégalités. Alors, il semble que dans ces travaux, la question de la catégorie est beaucoup d'importance. Parce qu'il y a plusieurs travaux d'économistes qui, quand ils parlent de l'effet sur les élèves les plus défavorisés, c'est qu'ils ont divisé leur échantillon en deux. Par exemple, les élèves dont les parents gagnent plus que le revenu médian, les élèves dont les parents gagnent moins que le revenu médian. Et sur la deuxième moitié, ils constatent qu'il y a un effet positif de la réduction de la taille des classes. Le travail de Piketty et Waldener a une conception très large des élèves d'origine défavorisée, puisque par exemple ils incluent tous les employés, tous les ouvriers, tous les parents inactifs, alors que au sein des employés il y a quand même une hétérogénéité extrêmement forte. Peut-être que ce que veulent dire ces travaux, cette confrontation des travaux, c'est que la catégorie a de l'importance. Peut-être que dans l'ensemble, le dispositif est plus efficace pour les élèves en éducation prioritaire, qu'il est plutôt plus efficace pour les élèves d'origine défavorisée. Mais ce sur quoi nous alerte l'étude de Jean Eckhall et ses co-auteurs, c'est que pour des élèves vraiment les plus défavorisés, eh bien, peut-être que la réduction de la taille de classe n'est pas suffisante pour couvrir leurs besoins, ou alors pour des élèves qui ont des besoins spécifiques, et j'ai parlé des élèves qui non francophones ou dont les parents ne sont pas francophones. Donc, ça ne me remet, je pense, pas forcément en cause le résultat global sur l'effet réducteur des inégalités de cette politique, qui a quand même été confirmée par beaucoup de travaux nationaux et surtout internationaux, mais peut-être ça conduit à la nuancer, en disant attention, cette politique n'est pas non plus une panacée pour répondre à tous les types de besoins. Et le dernier point que je voulais aborder, mais sur lequel je vous ai dit j'aurais assez peu de choses à dire, c'est les mécanismes qui sont à l'œuvre. Parce que il est quand même important, et c'est peut-être sur quoi on a du retard dans notre recherche, c'est comprendre ce qui se passe derrière. Alors dans les travaux que j'ai étudiés, la question de la discipline revient souvent. La question de la discipline en classe revient souvent parce que c'est ce qui permettrait d'expliquer certains faits. Notamment, c'est avancé par certains auteurs pour expliquer le fait que en cours de scolarité, et plus particulièrement en cours de collège, l'effet bénéfique de la taille des classes s'atténue. Certains auteurs ont dit que c'est peut-être parce que les élèves sont un peu plus autonomes, plus matures au cours du temps, et donc ils ont moins besoin d'encadrement. Je le laisse à votre appréciation, mais ça a été dit par certains chercheurs. Autre aspect, le fait que l'effet soit plus fort dans les établissements en éducation prioritaire a fait dire à certains chercheurs, eh bien, c'est peut-être parce que les problèmes de discipline sont plus prégnants. Et donc, si effectivement le canal essentiel de l'intérêt et la réduction de l'intérêt de classe, ça passe par un meilleur encadrement des élèves et une meilleure discipline, eh bien, c'est peut-être ça qu'on capte. Mais tout ça, vous voyez, ce sont des hypothèses. Hein. Et jusqu'à ces jours-ci, jusqu'à il y a très récemment, en fait, je n'avais que cela à vous proposer. Et puis, j'ai découvert cette recherche sur données suédoises qui essayait d'aller un petit peu plus loin. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que la méthodologie que je vous ai décrite sur les seuils d'ouverture de classe, ils l'ont appliquée, mais non pas pour expliquer la réussite des élèves, mais pour expliquer des attitudes, des perceptions de la part des enseignants, de la part des élèves et de la part des parents. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? D'une part, les enseignants qui sont dans des classes de plus grande taille se déclarent plus souvent que les élèves doivent prendre en main leur apprentissage, lorsqu'on leur demande à quel degré ils sont d'accord avec cette formulation. Alors, les auteurs interprètent cela, peut-être surinterprètent, mais interprètent cela en disant que peut-être que justement les enseignants répondent ça parce qu'ils sentent bien qu'ils ont moins de temps à consacrer à chaque élève en particulier, et donc c'est une façon effectivement de les encourager à se prendre en main. Ce que ces chercheurs constatent aussi, c'est que les élèves indiquent avoir plus de mal à suivre l'enseignant dans des classes de taille élevée, mais cet effet est concentré sur les élèves dont les parents ont les revenus les plus faibles. Donc c'est les élèves les plus défavorisés qui pâtissent de ces classes de grande taille. Donc ça, c'est pas très surprenant, ça rejoint les résultats dont je parlais avant. Mais peut-être le résultat le plus intéressant, c'est le dernier, c'est qu'ils ont donné des questionnaires aux parents, alors plutôt aux enfants et aux parents. Ils ont regardé le nombre d'heures passées aux devoirs et l'aide apportée par les parents aux devoirs. Sur le nombre d'heures passées aux devoirs, pas de différence entre les petites classes et les grandes tailles. Donc en termes d'investissement, en termes de volume, il ne semble pas qu'il y ait de différence pour ce qui concerne le temps passé par les élèves. Mais ce qu'ils ont vu dans les classes de grande taille, c'est que les parents aidaient plus souvent leurs enfants et que cet effet était concentré sur les parents de milieu social le plus favorisé. Et donc, cela conforte pour eux le résultat central qu'on trouve, selon quoi les élèves les plus favorisés, de milieu le plus favorisé, sont ceux qui, pour lesquels la réduction de la taille des classes a le moins d'effet, voire pas d'effet du tout. C'est parce qu'ils ont un milieu familial qui les soutient, finalement leur donne les acquis nécessaires pour être moins sensibles à ce qui se passe dans la classe, et qui même peut compenser, et c'est ce qu'ils trouvent dans leur recherche, ce qui se passe dans la classe. Donc voilà, entre discipline d'un côté, interaction élève-enseignant, possibilité de prendre en compte, d'individualiser l'enseignement de l'autre, vous avez plusieurs pistes explicatives qui ont été évoquées dans la recherche avec certains éléments crédibles, mais vous voyez qu'il y a encore pas mal d'éléments nouveaux à apporter de ce point de vue-là. Et je conclue, excusez-moi d'avoir été un petit peu long. De toute façon, vous voyez, j'ai bien insisté là-dessus qu'il est important de garder un regard critique et pluriel sur ces travaux de recherche. Critique parce que ces travaux nécessitent forcément de faire des hypothèses, parce qu'aussi, je n'en ai pas parlé, ils sont accompagnés d'une incertitude importante, le fameux intervalle de confiance, hein, pour parler en jargon statistique. Ce sont des travaux qui sont faits sur échantillons, donc forcément, ils sont soumis à une marge d'erreur. C'est pour ça qu'il faut garder aussi un regard pluriel, parce qu'il y a plusieurs travaux qui peuvent utiliser des méthodes différentes et apporter des points de vue aussi différents, je l'ai abordé. Malgré tout, j'ai essayé quand même de vous démontrer qu'il y avait une certaine convergence des travaux français récents sur l'intérêt de réduire la taille des classes, même si c'est des divergences que j'ai essayé aussi d'interpréter. De nouvelles analyses devront être menées et nous espérons que l'ADEP y contribuera, puisque elle contribue à suivre le dispositif actuel des CPDW et à l'évaluer. Et puis, une question dont je n'ai pas du tout parlé, mais qui peut être un axe de discussion, qui est la complémentarité avec d'autres politiques qui peuvent être tout aussi efficaces, notamment dans le domaine de la formation des enseignants. Voilà, je vous remercie de votre attention.